Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invitée cette semaine sera Catherine Mills, maître de conférence à Paris 1, spécialiste de l'économie de la protection sociale. Alors je suis allée voir Catherine Mills chez elle, oiseaux et avions qui passaient dans les airs, il y a quelques jours, donc pour parler avec elle de l'assurance maladie et plus spécifiquement de la réforme proposée par le gouvernement, réforme qui, je vous le rappelle, normalement devrait passer pendant les grandes vacances quand on sera tous sur la plage. Alors je lui disais qu'il y avait un déficit présenté comme abyssal, enfin chacun le dit, et donc il y avait une nécessité de la réforme, et même mieux de la nécessité de la réforme préconisée par le gouvernement. Enfin, peut-être que c'est pas ça qu'elle va me dire.
Alors, d'abord le déficit, on dit effectivement abyssal. Le ministre a dit abyssal. Donc, oui, les chiffres sont là. Il y a 13 milliards de déficit pour 2004, c'est un déficit jamais atteint. Ce déficit, d'abord, ce qui serait important, c'est de voir ses causes. Alors, ses causes, et là on ne le dit pas, c'est un, la montée du chômage. 100 000 chômeurs, ça représente 1,3 milliard d'euros de cotisations en moins, dont environ 0,5 milliard pour l'assurance maladie. Les économies sur les salaires. Il faut savoir que depuis 1983, la baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée a été de 10 points. Et il faut savoir que 1% d'économie sur la masse salariale, ça représente 2,3 milliards de rentrées de cotisations en moins, dont environ 40% pour l'assurance maladie. Alors cela s'explique aussi par des types de politiques économiques et de gestion des entreprises qui donc ont fait exploser les licenciements et ont comprimé la part des salaires dans la valeur ajoutée et ont aussi comprimé la croissance. Il faut savoir aussi que 1% de PIB en moins, ça représente aussi 2,5 milliards hein, tout à l'heure aussi, 1% d'économie sur la masse salariale comme 1% de récession du PIB, ça représente 2,5 milliards de cotisations en moins. Alors il y a certes un problème de dépenses. Par exemple, mais ça on n'en parle pas, le poids des profits pharmaceutiques. Et effectivement, c'est vrai qu'on est les premiers du monde pour la consommation au volume des médicaments. Mais on ferait bien de s'intéresser sur les causes profondes et sur les stratégies de l'industrie pharmaceutique qui pousse à une multiplication des fausses spécialités mises sur le marché. Alors, on pourrait bien évidemment réfléchir aussi à un autre type d'organisation du système de soins, puisqu'on a des dépenses de santé qui sont très inégalitaires. Et alors, ce qui est très paradoxal, c'est que le gouvernement parle des gaspillages, des abus, jamais chiffrés d'ailleurs. Par contre, il ne parle pas des graves insuffisances, notamment des inégalités d'espérance de vie entre les ouvriers et les cadres supérieurs, l'insuffisance de la prévention au travail, la baisse des taux de remboursement, l'insuffisance criante des emplois et des formations, aussi bien à l'hôpital qu'en médecine de ville. Donc on peut parler, si gaspillage il y a, travaillons, chiffrons-les et réduisons-les. Par exemple, dépenses pour profit de l'industrie pharmaceutique. Mais le vrai problème, ce sont les recettes. Alors à partir de ce moment-là, effectivement, le gouvernement, le ministre s'appuie sur le déficit abyssal, comme il dit, pour dire si on ne fait rien. Il prétend sauver notre système de santé et comme vous l'avez dit, sa réforme est la seule possible. Et c'est la même chose, c'est le même raisonnement que pour les retraites. En réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne va pas réformer, il va faire éclater notre système de santé et le faire évoluer vers un système à plusieurs étages, inégalitaire et inefficace, où on va faire monter le privé et on va au contraire réduire les dépenses publiques. Alors, à partir de là, oui, il faut une réforme. Il faut une réforme, je l'ai dit tout à l'heure, des inégalités de santé qui ne sont pas supportables pour un pays moderne, une insuffisance criante des emplois et des formations, aussi bien à l'hôpital public qu'en ville, une réflexion à mener sur le paiement à l'acte qui n'est certainement pas la seule forme de rémunération du médecin. Le besoin d'un système beaucoup plus coordonné entre la ville et l'hôpital, entre les généralistes et les spécialistes, un système beaucoup plus gratuit, notamment pour les plus modestes. Et il y a à travailler, c'est certain, il y a à travailler, il y a une réflexion à avoir sur un système de soins plus solidaire et plus efficace.
Et oui, c'est bien des sous et des hommes, et on est en compagnie de Catherine Mills, maître de conférence à Paris. Alors, la conversation continuait là-bas, chez elle, et je lui ai demandé quelles étaient les mesures préconisées par le gouvernement pour sauver la sécurité sociale.
Bon, d'abord, il faut dire que ces mesures ne vont pas sauver la sécurité sociale. Elles vont démanteler le système de santé solidaire et elles vont organiser une couverture à plusieurs étages où il y aura d'une part une diminution des seules dépenses publiques de santé, où il y aura d'autre part une percée massive du complémentaire et de l'assurantiel, et où il y aura une mise en concurrence de l'assurance maladie avec les mutuelles et les assureurs, et une vaste montée de la privatisation et des dépenses couvertes de façon individualisée. C'est-à-dire qu'on va vers un système de santé éclaté, à minima pour l'immense majorité de la population, et inégalitaire, et organisant surtout une énorme montée du privé. Donc ça ne va pas du tout sauver la sécurité sociale, et les mesures, ça va la détruire, ça va la recomposer. C'est donc bien ce que j'appelle une contre-réforme libérale. Et les mesures qui ont été prises, il y a 5 milliards représentent des financements nouveaux pratiquement sur les seuls ménages. Et il y a 10 milliards qui prétendent réaliser des économies à partir de ce qu'on appelle une nouvelle gouvernance et une nouvelle organisation du système de soins. Alors, à la fois ces mesures ces mesures ne permettent pas réellement de financer les dépenses de santé qui vont monter. Il y a une évaluation extrêmement farfelue, par exemple des économies qui seraient réalisées par l'obligation d'aller voir d'abord le généraliste avant d'aller voir le spécialiste. En réalité, les seules économies qui vont être réalisées, ce sont sur les dépenses publiques de santé et sur le rationnement des soins et sur la montée de la participation personnelle et individualisée des ménages. Mais en même temps, ces mesures profilent, si elles sont insuffisantes et perverses, je dirais, elles ne vont pas résoudre la crise du financement du système de santé. Par contre, elles profilent une évolution grave vers un système à plusieurs étages, où donc on va responsabiliser seulement les ménages et où on va livrer le marché de la santé aux complémentaires santé. Et toutes ces mesures en même temps profilent, à la fois ne régleront pas, mais seront reportées sur les seuls ménages et profilent un nouveau type d'organisation et de gouvernance où on va mettre à égalité avec l'Union des caisses d'assurance maladie l'union des complémentaires, et dans les complémentaires, il y a les assureurs. Alors, on aura un système où, à un bout, il y aura une montée très forte de l'étatisation, avec l'État qui va nommer le directeur des caisses d'assurance maladie, avec une haute autorité en santé qui va décider de ce qui est remboursable par la couverture de base et de ce qui est remboursable, ce qui n'est plus remboursable et qui doit être livré à la couverture complémentaire. Et en même temps que va monter l'étatisation, on va faire monter le privé. Bon, d'abord le MEDEF revient et évidemment pose ses exigences. Ses exigences, c'est ne pas mettre un euro de plus pour financer l'assurance maladie, et au contraire économiser, obliger à une économie sur les dépenses publiques de santé pour monter le rôle des assureurs et des complémentaires. Et donc on va avoir dans la gouvernance, on a dit aux syndicats et à la mutualité, vous allez gérer. En réalité, il y aura un bout étatisation, un autre bout privatisation, et ce qui resterait à la gestion des caisses d'assurance maladie, ce sera simplement de gérer le périmètre de soins et de biens remboursables, avec même la possibilité de diminuer les taux de remboursement si l'équilibre des caisses n'est pas atteint.
À Libre FM 93.1.
Je voulais une réponse un petit peu plus nette, un petit peu plus définitive. Je voulais clairement savoir ce que préconisait le gouvernement. Alors j'ai posé la question à Catherine Mills.
Le vrai problème, c'est le problème du financement. Et donc, le ministre refuse dans son projet de loi. Il dit il ne peut pas y avoir de moyens de financement supplémentaires. Et dans son plan au niveau du financement, les entreprises vont avoir une toute petite augmentation de ce qu'on appelle la contribution, la C3S, contribution de solidarité sur les sociétés, qui va passer de 0,13% du chiffre d'affaires à 0,16% du chiffre d'affaires, et encore c'est seulement pour les très grandes sociétés. Et c'est tout. C'est tout pour les entreprises. Le reste, ça sera 1 euro par consultation pour les malades. On va commencer par 1 euro et on peut faire comme le forfait hospitalier qui au départ était de 20 francs en 83 et qui va passer, là on a 13 euros, donc faites le calcul, l'année prochaine on aura 14 euros, après on aura 15 euros, après on aura 16 euros et ça sera pareil. Donc pour et la porte est ouverte pour une participation beaucoup plus grande avec forfait, franchise, une participation individuelle beaucoup plus forte des malades. Alors il y a ensuite le principe le forfait, j'ai dit, le forfait hospitalier va s'accroître. La CSG sur les retraités va augmenter, de même que la CSG sur les chômeurs, qui sont imposables, certes, mais ça commence assez vite. Ensuite, on va augmenter l'assiette de la CSG pour les salariés. Et on va également obliger les malades à passer d'abord par un généraliste avant d'aller chez un spécialiste. Et ceux qui iraient directement chez un spécialiste, la même chose, ils vont payer. C'est-à-dire il y aura une liberté tarifaire pour le spécialiste, et c'est entériné en fin de compte, ce qui a commencé, ce qui est quand même assez grave, puisque les spécialistes pratiquent des dépassements d'honoraires. Et donc là, on voit bien la logique de cette réforme, qui consiste à augmenter la participation personnelle des malades et à laisser envoler les dépenses privées. Et donc cette réforme, elle ne va pas sortir le système de santé de sa crise, elle va au contraire le faire éclater, et avec le risque de performance beaucoup moins, ça va dégrader en fait les indicateurs de santé. Et il faut savoir qu'un plus un système de santé est inégalitaire, plus il est inefficace.
Des souhaits des hommes, toujours en compagnie de Catherine Mills, après juste une illusion de Jean-Louis Aubert. Et ben, vous allez le voir, je vais lui poser ma dernière petite question.
On entend souvent le ministre parler de responsabiliser les patients.
c'est assez, ça pourrait sembler là aussi assez logique. Assez logique, on lui demande un euro de plus pour qu'il se rende bien compte que quand il va voir le médecin, ce n'est pas gratuit.
Oui, voilà. Donc là, on est entré complètement dans une logique néoclassique, libérale, individuelle. Et c'est très pratique, effectivement, de trouver un responsable. Le responsable serait le patient. Avec la fraude à la carte vitale. Alors que s'il y a une famille qui en reçoit trois, c'est pas de sa faute, elle n'a pas été les chercher, on en a envoyé trois. Ensuite, il y a un droit, avec la couverture maladie universelle, tout le monde, la santé maintenant est universelle. Et on voit pas, dans la famille, il y a les ayants droit, donc on voit pas très bien comment les enfants, la femme vont prendre la carte vitale pour aller acheter, ils vont pas acheter leur tabac, leur alcool et leurs ordinateurs. La carte vitale, elle sert à une seule chose, c'est d'aller se soigner. Et l'idée d'un nomadisme médical est une idée extrêmement farfelue, c'est-à-dire soi-disant on va avoir 5 fois par jour, on va avoir 5 médecins dans la même journée. Ça c'est complètement farfelu. Et s'il y a des gens qui vont voir effectivement beaucoup de médecins dans la même semaine, c'est des gens qui sont très malades et qui ont des polypathologies. Et donc là c'est vraiment une façon de culpabiliser les patients. Alors que le patient, il a toujours quelqu'un en face qui est le médecin. Et surtout, que si le patient, on oublie une chose, c'est que si le patient est malade, c'est la même chose si on a un arrêt de travail, là ils sont en train de stigmatiser les arrêts de travail, les gens qui s'arrêtent, il peut y avoir des cas, on en connaît, tout le monde connaît un exemple, entre guillemets, de gens qui abusent, mais c'est extrêmement faible. C'est extrêmement faible, mais les gens qui ont des arrêts de travail, qui ont des maladies professionnelles, qui ont des maladies tout court, c'est des gens qui sont usés par les conditions de travail, qui connaissent le stress. Et donc là, on pourrait peut-être s'interroger sur la responsabilité des entreprises avec la dégradation des conditions de travail. Il y a aussi le cas, par exemple, des plus de 55 ans à qui on a refusé des retraites anticipés, qui sont pas entrés dans les cas très rares où on va pouvoir leur appliquer le cas des métiers pénibles, et qui en fait, faute avec le report de l'âge de la retraite, en vérité, étant usés par les conditions de travail, l'assurance maladie sert en quelque sorte d'alternative à la retraite. Donc c'est certainement pas logique, mais c'est lié aussi à un type de politique économique et à un type de gestion des entreprises, et là on ferait bien de responsabiliser les entreprises, de même qu'on ferait bien aussi de responsabiliser, donc on responsabilise que le patient, on ne responsabilise pas les médecins, puisque tout ce qui est mis en place, ils auront des incitations financières, des réductions d'impôts, des exonérations, un supplément de rémunération s'ils acceptent de pratiquer certains actes vertueux. Les entreprises, on les responsabilise pas du tout, alors qu'il y a des dettes patronales, 2 milliards d'euros par an de dettes patronales non réglées. Il y a aussi, on pourrait aussi responsabiliser l'État. Il faut savoir que l'État n'a pas versé à la Sécurité sociale les exonérations qu'il aurait dû compenser, 2 milliards d'euros par an. Là, il a généreusement dit qu'il allait verser 1 milliard. Il doit 2 milliards d'euros par an. L'État n'a pas versé le produit des taxes sur les tabacs, sur les alcools et sur les assurances automobiles, qui normalement au départ avait été créé pour l'assurance maladie. Donc ça manque, il y a 15 milliards d'euros qui vont manquer à l'assurance maladie. Et toute cette politique d'exonération des cotisations patronales tend à la fois à priver la sécurité sociale de ressources, mais comme c'est en plus sur les bas salaires, ça tend à tirer tous les salaires vers le bas, et donc du coup ça tend à priver la sécurité sociale de ressources. Et donc, oui, responsabilisons, mais responsabilisons les vrais responsables, c'est-à-dire l'État, les entreprises, les médecins. Et arrêtons d'avoir un discours libéral sur chacun est responsable. Parce que là, on met l'accent, alors il y a eu la carte vitale, maintenant il y a les... Maintenant, il y a les accidents de travail et il faut faire la chasse aux quelques médecins qui prescrivent trop d'arrêt de travail et aux quelques malades qui n'arrêtent pas de s'arrêter. Mais on pourrait aussi regarder si les quelques malades qui n'arrêtent pas de s'arrêter et de se faire soigner, entre guillemets, c'est pas parce qu'ils sont vraiment très malades.
Bien voilà, c'était donc Catherine Mills. Alors je tiens à signaler un petit livre qui vient de reparaître à nouveau, hein, puisqu'il n'y en avait plus tellement c'est bien. Ça s'appelle « Main basse sur l'assurance maladie ». Ça fait partie des notes de la Fondation Copernic qu'on peut trouver aux éditions Sileps et ça coûte 7 euros. On le trouve à peu près partout. Il faut signaler aussi le petit livre que fait sortir Attac, « Santé et assurance maladie, quelles alternatives au néolibéralisme ?» C'est aux éditions Mille et Une Nuits, 2,50 euros. Vous pouvez aussi trouver plein de renseignements sur le site de la Fondation Copernic. Alors c'est www.fondation-copernic.org/index-g.htm. C'est pas évident, mais si vous faites fondationcopernic.org tout seul, vous ne trouverez pas vraiment les renseignements sur l'assurance maladie. Voilà. La semaine prochaine, on écoutera une interview que j'avais faite en 2002 d'un certain Henri Guénaud, qui est ancien commissaire au plan et qui m'avait parlé d'EDF. Alors c'est particulièrement intéressant, d'une part, parce que vous savez tous qu'il y a un gros problème actuellement, mais surtout, Henri Guénaud a été un grand soutien de Jacques Chirac. C'est lui, comme il me l'a dit lui-même, qui avait inventé le concept de la fracture sociale. Donc c'est bien quelqu'un de droite qui parle, hein, soyons clairs, et pourtant, il s'oppose à ce qui est en train de se passer à EDF. Donc un point de vue absolument primordial, qui vient en plus de celui que vous pouvez aussi écouter sur le site de Dessous, qui est celui de François Soult, donc on peut trouver sur www.dessousetdeshommes.org avec un tiret entre chaque mot. Voilà, à la semaine prochaine, donc avec une ancienne interview, mais d'Henri Guénaud, et ça vaut le coup.